France Culture. Le journal, Jeanne Serrin.
Bonjour à toutes et à tous. Il se dit prêt au dialogue avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, par la voix de son porte-parole, alors que les négociations pour la paix en Ukraine se poursuivent en Floride. Dans ce journal, nous irons au Donbass, où les habitants tentent d'oublier les discussions en cours sur l'avenir de leur terre. Le président français, lui, est aux Émirats Arabes Unis, où il vient chercher l'aide de son partenaire émirien pour lutter contre le narcotrafic. Il n'a que 22 ans, l'auteur présumé de la cyberattaque du ministère de l'Intérieur a été placé en détention provisoire. Enfin, pas question de se taire, plusieurs librairies indépendantes accusent l'extrême droite de tentatives d'intimidation. Vladimir Poutine se dit prêt au dialogue avec Emmanuel Macron. Déclaration du porte-parole de la présidence russe, alors que des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine se déroulent en ce moment à Miami. Une délégation russe est arrivée hier en Floride, où se trouvent également des négociateurs américains, ukrainiens et européens. Washington doit accentuer la pression sur la Russie, a exhorté hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au moment où la menace d'un plan de paix prévoyant des concessions territoriales importantes se rapproche de l'Ukraine. C'est donc dans ce contexte que le pays s'apprête à passer les fêtes de Noël. Dans le Donbass, encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, la population tente de ne pas penser aux négociations. Reportage Elisabeth Pierson.
Dans la ville de Sloviansk, plongée dans le noir faute d'électricité, des enfants s'amusent autour d'un sapin illuminé sous la neige qui tombe. Quelques minutes plus tôt, deux grandes lueurs ont pâli l'horizon. Des bombes sont tombées non loin. Pas de quoi dissuader Andriy et Marina, un couple originaire de cette ville du Donbass, de goûter à la féerie de Noël.
Pour nous, il est important que les fêtes de fin d'année soient célébrées, même dans une ville de première ligne. Pas tant pour nous, mais pour les enfants, ils ne devraient pas savoir ce que c'est que la guerre.
Dans les négociations de cesser le feu, Moscou réclame le départ des forces ukrainiennes pour faire de ce territoire une zone tampon. Ivan, pilote de drone en permission, juge cette idée inacceptable.
J'ai entendu cette idée d'une zone tampon, mais si nous nous retirons, c'en est fini de l'oblast de Donetsk.
À Kramatorsk, la ville voisine, le père Petro prépare la crèche dans sa chapelle, aidée de paroissiens. Pour Noël, les autorités ont recommandé de ne pas organiser de rassemblement, car chaque regroupement peut être une cible. Le prêtre gréco-catholique prévoit de célébrer 4 messes et d'en donner l'horaire à la dernière minute.
Cette année, Noël sera particulier parce que nous recevons des bombardements de manière quotidienne. Mais à travers la prière et les chants de Noël, nous tâchons d'amener un peu de paix dans le cœur des gens.
Le prêtre dit toutefois garder l'espoir. Ce Noël, pour lui et ses paroissiens, ne sera pas le dernier dans le Donbass, veut-il croire. Et vivre la joie des fêtes est leur manière de résister.
Et ce matin, la France salue l'ouverture au dialogue de Vladimir Poutine. Il est bienvenu que le Kremlin donne un accord public à cette démarche de dialogue, indique l'Élysée. Hier, le président ukrainien a évoqué la possibilité de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie. Une proposition faite par les États-Unis, selon Volodymyr Zelensky. Ce serait une première depuis 6 mois. Les États-Unis ont saisi un deuxième pétrolier au large du Venezuela, une opération dénoncée par Caracas et qui intervient quelques jours après la mise en place par Washington d'un blocus naval. Ce dernier vise à augmenter la pression économique sur le pays, présidé par Nicolas Maduro. « Je n'exclus pas une guerre avec le Venezuela », a par ailleurs déclaré vendredi Donald Trump. Son administration soupçonne le président vénézuélien d'être à la tête d'un réseau de trafiquants de drogue. Ce pétrolier est le deuxième à être intercepté par les Américains depuis le début du mois de décembre. En Afrique du Sud, une fusillade près de Johannesburg fait 10 morts et une dizaine de blessés, un bilan provisoire, alors que les circonstances de l'attaque et l'identité des tireurs ne sont pour l'heure pas encore connues. Le président français en visite chez le premier client d'armement français. Les Émirats Arabes Unis reçoivent aujourd'hui Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit passer un dîner de réveillon avec les militaires tricolores. Ils sont plus de 900 déployés sur une base aérienne. Mais le président va d'abord rencontrer son homologue émirien Mohamed Ben Zayed, avec l'objectif, Paul Barcelone, de mener une offensive diplomatique dans la lutte contre les narcotrafics.
Traquer les têtes de réseau à l'étranger, objectif affiché cette semaine lors d'un déplacement à Marseille. Emmanuel Macron réclame plus de coopération alors que des narcotrafiquants sont réfugiés à Dubaï où ils blanchissent l'argent de la drogue en investissant notamment dans l'immobilier. Dans l'espoir d'accélérer les extraditions, le président, pour sa 4e visite aux Émirats Arabes Unis, mise sur le lien de confiance tissé avec l'un des hommes forts du Golfe, Mohamed Ben Zayed, opposant à l'islam politique et aux frères musulmans, à la manœuvre dans le but de normaliser ses relations avec Israël, mais englué dans des conflits en Libye, au Soudan et au Yémen, où son pays est accusé de crimes de guerre. ce qui n'empêche pas l'Elysée de revendiquer une alliance stratégique avec un acteur clé, riche et stable, dans une région soumise à de multiples crises. Les Émirats arabes unis sont le premier client de l'industrie d'armement français. Plus de 900 militaires y sont déployés.
Et la lutte contre le narcotrafic, il en est aussi question en France. Dans une interview au Parisien, le garde des Sceaux Gérald Darmanin et la procureure chargée de la lutte contre le narcotrafic Vanessa Perret dévoilent les priorités du nouveau parquet national anticriminalité organisé, le PNACO. Son démarrage est prévu le 5 janvier. La question est de savoir qui va gagner entre l'autorité de l'État et la criminalité organisée, déclare le ministre de la Justice. Le hacker suspecté d'avoir piraté les données du ministère de l'Intérieur début décembre a été mis en examen et placé en détention provisoire hier soir. Interpellé mercredi à son domicile près de Limoges par la BRI, l'homme est âgé de 22 ans. Déjà condamné pour des faits similaires cette année, il risque jusqu'à 10 ans de prison, Garance Caillé.
Pas moins de 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Parmi eux, le fait d'avoir consulté, extrait et modifié des documents confidentiels, le tout en bande organisée. La cyberattaque a eu lieu le 8 décembre en infiltrant les messageries internes du ministère de l'Intérieur et notamment le fichier des personnes recherchées. Une semaine plus tard, il y a 5 jours donc, le suspect est arrêté par la BRI dans cette maison qu'il occupe avec sa mère, à Saint-Sulpice-Laurière, en Haute-Vienne. Il a directement été placé en garde à vue, où il était encore avant son placement en détention provisoire hier soir. Le jeune homme n'a pour l'instant pas détaillé le motif de cette attaque. Son avocat a précisé hier soir qu'il garde le silence et que son casier judiciaire est vierge. Son client a pourtant déjà été condamné cette année à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à un système de traitement automatisé des données.
Et l'enquête a été confiée à l'Office anti-cybercriminalité. Des agriculteurs continuent de se mobiliser aujourd'hui contre la stratégie du gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. L'un des principaux points d'action reste l'autoroute A64 entre Bayonne et Toulouse, où des agriculteurs de la coordination rurale et de la Confédération paysanne bloquent la circulation depuis une semaine. Hier, le ministère de l'Intérieur a enregistré 50 actions dans tout le pays et plus de 1600 personnes mobilisées. Des croix celtiques taguées sur les murs, un local récemment incendié, des vitrines brisées, des auteurs et autrices visés par des messages de haine et des insultes. Ces dernières semaines, les actes de vandalisme qui ciblent des librairies indépendantes se sont succédés. Des librairies qui bien souvent assument un engagement politique, soutien public au peuple palestinien ou encore mise en avant d'ouvrages LGBTQI+. Alors face à ces tentatives d'intimidation, Rachel Escolano, les acteurs du monde du livre refusent l'autocensure.
En novembre, c'est la vitrine de la librairie La Petite Égypte à Paris qui a été taguée. À l'origine de l'incident, la venue de Francesca Albanese, rapporteuse de l'ONU sur les territoires palestiniens et autrice d'un livre sur le sujet. Pour autant, pas question pour le gérant, Alexis Argiroglo, de changer sa façon d'exercer son métier.
Ça a un impact sur la vitrine parce que c'est une dégradation qui laisse des traces, hein, c'est de la peinture à l'acide. Mais sinon, on continue bien évidemment de faire notre travail, de programmer les événements, les personnes qui relèvent de nos orientations, de nos choix, qui restent les mêmes.
En moins de 2 mois, 2 tribunes ont dénoncé la multiplication de ces violences. Si celles, notamment portées par le syndicat de la librairie française, dénoncent des idéologies extrémistes, la tribune collective, publiée dans le Nouvel Obs, nomme directement l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour cette raison que Soisy Courbet, responsable de la librairie féministe La Franchie à Lille, a décidé de la signer.
Je me suis pas du tout reconnue en fait dans les propos et je trouvais que c'était un peu triste de jouer la neutralité, de pas oser vraiment dire de qui on a peur en fait dans nos librairies. Je pense qu'à un moment donné en fait quand on est face à des menaces d'extrême droite, il faut la dire. Je pense que c'était important en fait qu'on se fasse entendre pour que le public se rende compte de ce qu'on vit, parce que la plupart du temps on n'en parle pas trop, parce qu'on voudrait pas réattirer de l'attention.
Si certains élus, comme l'adjoint au maire en charge de la culture à Marseille, Jean-Marc Coppola, ont pris la parole pour appeler à la défense de ces librairies, les premiers concernés restent lassés par le manque de soutien des acteurs politiques.
Un mot du temps avant de refermer ce journal. Un temps encore très gris et pluvieux sur la majeure partie du pays. 3 départements sont placés en vigilance crue, l'Aveyron, l'Hérault et la Lozère. Du côté des températures, elles sont douces ce matin. Il fait 5 degrés à Belfort, 9 à Rennes, 12 à Vichy et 14 degrés à Marseille.